Soyez salués, bien-aimés dans le Seigneur. Je salue les personnes aînées, notamment, qui ne sont pas là ce matin. J'ai eu un téléphone de Myriam ce matin. Myriam Maté qui m'a fait cette recommandation. Elle a dit, oui, il y aura moins de monde. Les aînés sont restés à la maison. N'oublie pas de les saluer, parce que comme ça, ils sont bien participants. Et toute autre personne qui écoute sur Internet ces partages. Voilà. Je me suis acquitté. Enfin, elle écoutera peut-être aussi Myriam pour vérifier si je l'ai fait. Voilà, je ne suis pas une victime. Hein. J'ai accepté volontiers, quand David m'a appelé vendredi matin, de partager quelque chose que j'ai sur mon cœur depuis un moment. J'ai eu l'occasion de prêcher sur ce texte de Actes 16 qu'on va parcourir un petit peu ce matin. Et j'aimerais vous dire deux mots pourquoi j'ai pris ce thème, quand même. D'abord, pour toutes sortes de raisons, ces derniers temps, je me suis intéressé de manière un petit peu plus pointue à tout ce qui se vit au sein de l'Église persécutée dans le monde. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de plus en plus de chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Et cette persécution vient sous une autre forme en Occident, de manière de plus en plus marquée aussi. Et dans ces lectures que j'ai faites, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché. C'est précisément ces deux textes que j'ai suggéré qu'on puisse lire pour ce matin, ou aller découvrir tout à l'heure. Et c'est vrai que, dans le fond, c'est ce fait que Silas et Paul aient été en prison à un moment donné, à cause de leur foi, à cause de leur témoignage, et puis aient reçu cette capacité de pouvoir prier et louer Dieu, malgré leurs circonstances, par ailleurs fort injustes, puisqu'ils avaient été arrêtés, ils auraient dû être jugés par un tribunal romain, ce qui n'a pas été fait. Enfin, il y avait des vices de forme, mais qu'ils aient reçu cette force de louer Dieu, de prier, dans ces circonstances, ça m'a beaucoup interpellé, parce que pour les chrétiens persécutés, c'est un texte de référence. C'est un texte de référence. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais et pour nous, est-ce que ça peut nous parler? Et dans différents groupes au sein desquels j'ai pu passer, j'ai posé la question aux participants, leur dire, mais ce thème de la prison, ce thème de la louange, de la prière, est-ce que ça peut vous parler dans vos circonstances? On n'est pas sous un régime d'une persécution ouverte, violente, mais dans votre vie, est-ce que ça peut vous parler? Parce que dans le fond, il y a des prisons matérielles, physiques, mais je me suis rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de prisons, on peut dire spirituel, moral, même psychique, dans lesquels on peut être enfermé. Et bien sûr, j'ai sollicité des témoignages, et j'ai été très touché par des témoignages de différentes personnes qui étaient là sur ma route, et qui pouvaient être très différents. Par exemple, une personne qui avait eu beaucoup de combats avec la drogue, avec des dépendances au niveau de la drogue, disait que quoi qu'elle soit devenue chrétienne depuis quelques années, parfois elle avait des tentations très fortes. Et ce texte l'avait rejoint et elle s'était mise à genoux, même dans les larmes, en disant « Seigneur, tu es le même qui a pu intervenir dans la vie de Paul et Silas. Et tu leur as donné cette force de traverser cette épreuve et de s'en sortir d'une manière miraculeuse. Mais je crois que tu peux aussi faire quelque chose, peut-être pas exactement, c'est pas du copier-coller, mais tu n'es pas indifférent à mes circonstances. » Et tu peux intervenir. Une autre personne me disait, j'ai donné ce message à Gmail il y a quelques semaines, une personne qui visite une chrétienne très âgée à l'EMS de Gmail. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont très très affectées dans leur, très affaiblies dans leur santé. Elle disait, je visite une chrétienne, c'est dur le combat, elle est prisonnière dans son corps. Mais je vois bien quand je la visite, ses yeux commencent à s'éclairer, elle sait que je vais partager quelque chose, la parole, qu'on va chanter ensemble. Et puis, je vois bien qu'il y a vraiment quelque chose se passe. Et Et je crois vraiment que Dieu peut intervenir dans ces circonstances aussi. Et puis plus récemment encore, une dame dans un culte s'est levée pour dire, eh bien, j'ai eu beaucoup de peine à pardonner à mon père. J'ai eu beaucoup de conflits avec mon père. Et j'étais comme dans une prison dans la relation avec lui jusqu'à ce que je reçoive. Mais il m'a fallu des années pour que j'arrive à lâcher le paquet quelque part, hein, lâcher la corbeille et accepter de pardonner à mon père. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression que je sortais de prison. Donc vous voyez, ça peut être à géométrie très variable. Et ce matin, je mettrai un petit peu l'accent, parce que je l'ai adapté ce message à ce qu'on est, à ce qu'on vit, sur le coronavirus. Ça vous va comme ça? Parce que l'air de rien, je crois que, bon, il y a des personnes qui sont en quarantaine. J'ai lu ce matin que 10 millions de personnes, 10 millions d'Italiens étaient maintenant confinés aussi en quarantaine au nord de l'Italie. Et j'ai eu 2 ou 3 contacts par-ci, par-là avec les personnes qui vivent ça et je me rends compte que, voilà. Et puis, d'une certaine manière, je pense, psychiquement parlant, à force d'être envahi par les informations qui sont nécessaires, mais pour les plus sensibles parmi nous, pour les plus fragiles, ce n'est pas très évident de vivre ça. Et mentalement, on peut être tout d'un coup sous une coupe, sous une prison, et je pense que le diable peut aussi nous entraîner dans des psychoses et avoir des peurs irrationnelles, mais qui sont douloureuses à affronter. Donc, je pense que ce que je partage ce matin, ça peut nous faire réfléchir. Chacun va cheminer avec ses pensées, mais ça peut nous donner des pistes, et non pas que la louange soit un truc, une recette miracle, ni la prière d'ailleurs, mais je vais essayer de démontrer à travers ce récit qu'on va découvrir qu'est-ce qu'il y a là derrière que j'ai découvert. Ce sont des pistes sans prétention. Elles m'ont béni, elles m'ont fortifié. J'espère humblement que ça vous permettra aussi d'en faire quelque chose pour vous. Ça va comme ça? Voilà. Dernière chose que j'ai dit, ce texte acte 16 me touche particulièrement parce que c'est le deuxième voyage des apôtres. Et c'est par le biais de ce deuxième voyage que l'Évangile parvient en Europe. Voilà, en Macédoine, dans la ville de Philippe. Et les apôtres y sont allés parce qu'ils ont eu une vision. À un moment donné, l'Esprit de Jésus les a empêchés d'aller où ils voulaient aller, c'est-à-dire à Éphèse, en Asie mineure, et les a amenés, suite à cette vision, à se rendre à Philippe. Paul a eu la vision d'un Macédonien qui était debout et qui lui disait « Viens à notre secours !» Voilà, le décor est planté et on va lire maintenant enfin le texte. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Et tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Je m'arrête là, bien sûr. J'espère que vous lirez tout le chapitre ou que vous l'avez déjà fait, puis la suite est très très forte aussi. Comment se fait-il que Paul et Silas aient pu vivre cette dimension-là de prière, de louange? Ils sont dans un cachot, dans le cachot le plus profond de la prison. Leurs pieds sont entravés. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, je pense qu'ils vont pouvoir trouver des ressources auprès de celui qui est la source, bien sûr, Jésus-Christ. Ça me semble évident. Mais en quoi est-ce que ça peut consister en la circonstance pour eux? Alors, je suis bien évangélique, trois points. Je pense que le premier élément, bien sûr, est en lien avec leur vocation, leur consécration. En particulier pour Paul, clairement, dans le livre des Actes, il est aussi dit que bon, Dieu se révèle à Ananias quand Paul, sur le chemin de Damas, va sortir de sa double prison, puisqu'il était sous un aveuglement religieux. Il persécutait les chrétiens, il n'avait pas compris qui était Jésus. Et puis, dès que l'instant où il y a une rencontre avec Jésus, il est rendu aveugle, cécité physique, après la cécité spirituelle. Et tout ça va déboucher sur une libération extraordinaire. Il va y avoir une forme de tremblement de terre. Les fondations de la prison, de sa prison, vont être secouées. Et il va être dégagé de toutes ces chaînes. Quelque chose de fantastique. Et au même instant où Ananias va devoir prier pour lui, Dieu lui dit, eh bien, cet homme est un instrument de poids pour être mon témoin au sein des nations. Et dans le paquet de cette consécration, il y a bien sûr la référence à ce que Jésus demandait à ses apôtres. Il allait les déléguer dans cette mission. Hein, c'est comme ça que l'évangile se termine, notamment Matthieu. Allez, faites de toutes les nations des gens, de toutes les nations des disciples. Donc, je pense que Paul est tout à fait en adéquation avec son appel, sa vocation. Et il sait le prix à payer. Son maître est allé jusqu'au bout dans ce domaine. Et il aime Jésus. Et il sait très bien que d'obéir à l'ordre de Jésus, ça peut entraîner dans des tribulations, de l'opposition, de la souffrance, à cause de cette manifestation de la foi en Jésus-Christ. Jésus d'ailleurs a averti ses disciples, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et pour moi, toutes ces réflexions, bien sûr, ont pu venir aussi là comme affermir Paul et aussi Silas. Et j'étais intéressé par les détails de ce texte, enfin de ces textes. Silas, vous savez quel était le ministère de Silas ? Il y a quelqu'un qui sait quel était le ministère de Silas ? Dieu a donné les apôtres, Paul, les prophètes. Silas était prophète. Et je pense bien que dans cette prison, ce n'était pas anodin d'avoir ce type de ministère avec le revêtement, l'équipement dont ils ont bénéficié. Et je pense que certainement, Paul a dû aussi regarder dans le rétroviseur. C'est bien des fois de regarder dans le rétroviseur. Lui avait en particulier pu expérimenter la réalité de la persécution lors du premier voyage. Il avait été lapidé, on l'avait laissé comme mort à Lystre. Mais Dieu était intervenu en sa faveur. Il avait survécu. Non pas que la foi en Christ soit une assurance tout risque. Vous savez, par exemple, que le premier médecin en Chine, cet homme de 38 ans, qui a parlé du coronavirus, c'était un chrétien engagé, un chrétien évangélique engagé. Et bien, il est mort. Et le fait qu'il ait donné l'alerte, ça lui a valu vraiment des réprimandes sévères du régime, des responsables de la ville de Wuhan. Donc, la foi n'est pas une assurance tout risque. Paul, à plusieurs reprises, a été libéré de prison, mais il va aussi quand même mourir à Rome. Après avoir été emprisonné, ben voilà, il va être mis à mort, probablement décapité. Alors la foi n'est pas une assurance tout risque, mais malgré tout, je crois que Dieu nous donne des promesses. Il est fidèle et honnêtement, quand on peut regarder des fois dans le rétroviseur, et c'est nécessaire parfois, on peut se souvenir qu'à plusieurs reprises, nous avons été confrontés à des difficultés, à des tribulations, mais Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il est intervenu. Et ça peut nous donner un capital confiance qui n'est pas négligeable. Et je pense qu'aussi actuellement avec ce coronavirus, on sait qu'il y a eu déjà d'autres épidémies. Jésus a dit qu'un des signes de la fin des temps, ce serait quand même aussi ce type de manifestation. Pour autant, est-ce qu'on va juste rester passif avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Et encore une fois, ça peut nous affecter. On a peut-être des proches qui sont atteints, etc. Et puis il y a toutes sortes de conséquences. J'en parlerai pour terminer tout à l'heure ce message. Voilà. Donc, première étape en lien avec tout ce vécu, cet appel, cette vocation, tout ce qui a été manifesté à travers des expériences diverses qui permet d'être mieux enraciné. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de peur, qu'il n'y a plus d'angoisse, mais ça permet de nous resituer, de nous recentrer sur l'essentiel. Le deuxième élément que j'aimerais souligner, c'est pour moi une clé évidemment essentielle, c'est en lien avec qui est Dieu, avec la personne de Dieu qui a fait que finalement ils ont pu avoir cette force, cette capacité de louer, de prier d'une manière telle que tous les prisonniers les entendaient. Confiance que Dieu reste le Dieu souverain sur les nations, sur nos vies, sur nos cheminements. C'est pas rien. C'est-à-dire que, en fait, il y a un pilote dans l'avion. Dieu reste en contrôle de tout ce qui se passe à tous les niveaux. Il est souverain et dans ses attributs, dans ses caractéristiques, dans sa personne, dans sa personnalité, il nous est dit que c'est un Dieu de compassion. Et pour moi, je ne vous cache pas que c'est une des choses qui m'a le plus bouleversé dans tout ce chapitre 16 des Actes. Cette compassion pour les perdus, parce que cette vision qui est reçue par les apôtres alors qu'ils tournent un peu en rond, ils ont été arrêtés clairement pour ne pas poursuivre leur route comme ils avaient l'intention de le faire, mais cette vision du Macédonien qui appelle au secours, c'est la manifestation de cette compassion de Jésus pour ces gens au sein des nations qui sont perdus, qui sont sans ressources. Et à quelque part, il va mandater des ambassadeurs, comme s'ils étaient les bras de Jésus, le cœur de Jésus, la personne de Jésus au milieu d'eux. Et c'est bouleversant, cette dimension-là. Et je pense bien que les apôtres, dans cette circonstance, dans cette prison, avec des gens malheureux, doivent être tout à fait conscients, avec leur sensibilité spirituelle, que là, mais ils sont pleins dans la cible de leur mandat et de ce qui leur a été confié. Et que si Dieu s'est révélé par ce moyen d'une vision qu'il les a envoyés là, bien c'est parce qu'il va en faire quelque chose. Et le reste du texte est absolument formidable, parce que bon, même si on ne l'a pas lu, vous le connaissez sans doute, bien les chaînes tombent, voilà, le geôlier, lui, veut se tuer parce que comme geôlier à cette époque, il est responsable de ses prisonniers. S'il y en a qui fuient, on le met à mort. Donc il veut se suicider, plutôt que d'être encore torturé ou je ne sais pas trop quoi. Mais les prisonniers sont tous restés. Peut-être que c'est suite aux prières qui ont été entendues, je ne sais pas quel était le contenu de ces prières, mais ça a dû comme scotcher à quelque part ces prisonniers. Et puis le geôlier, lui aussi, va commencer à chercher, à savoir comment il pouvait être sauvé. Mais voilà, pour moi, c'était un élément très, très intéressant par rapport aux ressources que Dieu peut nous donner dans des circonstances qui peuvent être très, très difficiles. Pouvoir nous dire, mais Seigneur, dans le fond, ok, on sait, tu n'as jamais dit que la vie chrétienne serait facile, que d'être ton serviteur, ta servante, ton témoin, ça allait être de la tarte, comme on dit. Mais, par contre, je peux avoir confiance que, par la foi, je peux saisir que dans ces circonstances qui sont si difficiles, tu peux en faire quelque chose d'étonnant, de surprenant. Et pour moi, c'est quelque chose qui me semble très porteur pour justement être renouvelé dans nos forces, dans notre capacité de tenir le coup envers et contre tout. Et de pouvoir nous appuyer sur Dieu, peut-être d'une manière encore plus sensible, parce qu'on est conscient à ce moment-là qu'on dépend de sa grâce, et qu'on en a besoin tous les jours et sans arrêt. Et ça, c'est une dimension qui peut se traduire justement par de la louange, par des prières d'action de grâce et de foi. Donc la louange, la prière, ce n'est pas du tout un truc, une recette magique, mais ça fait partie de cette armure que Dieu met à notre disposition, d'un équipement. Et le fruit d'une révélation du Saint-Esprit, on a besoin de la dimension surnaturelle, de révélation du Saint-Esprit. Parce qu'humainement parlant, on peut se sentir mais tellement coincé, tellement dans une impasse, et abattu. En disant, il n'y a plus d'espoir. Alors qu'en Christ, il y a toujours de l'espérance. Et j'ai aimé ces textes aussi, ces récits, ces témoignages de l'Église persécutée. Quand ils font référence à ce texte, quand ils sont en prison, ils disent, Seigneur, tu as pu libérer Paul et Silas. Donc je crois que tu pourrais le faire. Mais peut-être que tu as un autre projet pour moi. Et parfois, ces chrétiens sont restés emprisonnés, mais ils ont vu qu'ils étaient dans des cellules avec des gens qui étaient tellement découragés, tellement abattus, qui n'étaient pas chrétiens, ou parfois qui étaient des chrétiens qui s'étaient alors refroidis ou qui avaient tout lâché. Mais eux avaient pu être porteurs d'une parole de réconciliation avec Dieu, ou une parole qui amenait l'espérance dans le cœur de ces prisonniers. J'ai tellement aimé cet épisode de ma vie où j'étais pasteur en France. J'avais pu accompagner un pasteur évangéliste dans les prisons en France. Et je me souviens, dans une prison, il disait à ces gens, « Mais vous savez, dehors, il y a des gens qui apparemment sont libres, mais qui sont dans des prisons intérieures, dans des prisons morales, dans des prisons spirituelles. Et vous, en prison, vous pouvez être libre davantage que les gens qui sont à l'extérieur. » Parce que le Christ peut venir habiter dans vos cœurs par la foi. Et vos vies vont être transformées. Et puis il donnait son témoignage, etc. Des conséquences de cela, c'est que tous les Nouveaux Testaments qui étaient mis à disposition sur un banc, je me souviens comme ça, étaient pris par quasiment tous les prisonniers prenaient de ces Nouveaux Testaments. Quelque chose de magnifique. Fruit d'une révélation de Dieu qui peut conduire à découvrir des nouvelles étapes dans notre vie. Et puis un dernier point. Ça concerne, je serai beaucoup plus bref, c'est David Rosset en avait parlé, l'espérance en lien avec la prière. C'est quand même formidable, on prie, et puis il y a des choses qui se passent. Non, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ça ne se passe pas toujours comme on voudrait, mais moi je suis réjoui de voir ces temps, des choses que je peux vivre, notamment l'intercession pour des gens de ma maison comme ça. Des chemins qui s'ouvrent, qui sont vraiment magnifiques. L'intercession. Alors, je suis convaincu que la première convertie à Philippe, vous savez, c'était Lydie, cette marchande de pourpre, qui a invité formellement les apôtres à venir habiter chez elle. C'était la première église de maison qui était là dans cette ville de Philippe. Après, elle va grandir cette maison, au point que Paul écrira une lettre aux Philippiens, quelques années après. Mais cette église, elle devait prier pour les apôtres. Et puis l'église d'Envoi, l'église d'Antioche, elle intercédait. Et il nous a même dit dans l'Écriture que Jésus intercède pour nous. Et Jésus voyait la détresse. Il y a eu cette prophétie tout à l'heure parmi nous. Quelqu'un doit savoir qu'il est le bien-aimé de Dieu. Ça peut atteindre plusieurs personnes, mais peut-être que par la voix prophétique de Silas sur Paul, il a dit, mais Paul, tu es tellement aimé de Jésus, tu te rends compte. Tu es dans la position de ce malheureux qui crie au secours, à quelque part, peut-être. Tu es devenu un peu un macédonien, là. Hein? Mais voilà, Dieu t'aime et la prière. C'est une dimension extraordinaire où on peut prier les uns pour les autres. On peut se bénir les uns les autres. La force de ce rassemblement, de pouvoir prendre la scène ensemble, de pouvoir savoir qu'on fait partie d'un corps. Et qu'on sera étonné de voir le nombre de gens qui prient pour nous. On crée des relations, des liens. Et l'Église persécutée apprécie tellement de savoir que des chrétiens dans le monde libre, apparemment libre, intercède, pense à ce que vivent ces croyants. Alors je conclue par pour moi, ce qui me semble ressortir en tous les cas, c'est que nous ne sommes pas des apôtres, certes, mais nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous, d'après l'Écriture, saints. S-A-I-N-T, c'est pas qu'on soit sans faute. Non, être saint, c'est être conscient qu'on a du péché, des péchés, qu'on a besoin de salut, d'un sauveur, que Jésus est ce sauveur magnifique. Mais surtout, saint, vous savez, ça veut dire être mis à part. Mis à part pour Dieu. comme enfant de Dieu, comme disciple, comme témoin. Et tous, nous avons des relations professionnelles, familiales, avec des voisins, etc. Et Dieu peut nous permettre, à quelque part, d'entendre le cri au secours de bien de ces personnes. Est-ce que nous sommes conscients ? Dans ma maison, actuellement, c'est des gens qui sont confrontés à la mort, qui sont confrontés à la fin de chômage, maladie, etc. Je dis, Seigneur, ou je joue à la tortue, ou je vais me risquer à essayer d'être témoin. Nous n'avons peut-être pas reçu une vision surnaturelle, quoique la nouvelle naissance, la découverte de Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est du surnaturel, pur sucre. D'avoir la conviction que la résurrection, Jésus est ressuscité, c'est du surnaturel. Voilà, on n'a peut-être pas une vision ou un tremblement de terre puissant, mais on est tous au bénéfice de l'alliance avec Dieu, de l'héritage en Christ qui nous permet de bénéficier de ses richesses. Et elles sont infinies. À travers sa parole écrite, vivante en Jésus-Christ, à travers tellement de choses, le baptême du Saint-Esprit qui nous permet d'appeler Dieu notre Père, Abba, Papa, à travers des ministères que Dieu donne à l'Église, toutes sortes de choses extraordinaires, on peut faire une liste absolument magnifique. Eh bien, on peut expérimenter cette réalité de la grâce. Et il y a une prière que j'aime énormément, c'est celle justement que Paul a adressée aux Philippiens. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Hein, le poids de cette parole, hein, avec tout ce qu'il a vécu à Philippe, vous voyez bien que ce n'était pas des paroles en l'air, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, vos pensées, en Christ Jésus. C'est une parole qui est tellement forte. Et j'aimerais vous proposer qu'on puisse juste terminer par la prière. Vu que le temps avance, c'est moi qui vais prier, mais je vous dis un peu les lignes de ma prière. J'étais il y a quelques jours avec des pasteurs, on se trouvait dans une rencontre et on a parlé du coronavirus et un parmi nous disait... Je pense que le défi pour nous chrétiens, c'est de ne pas tomber justement dans cette atmosphère de psychose qui peut atteindre la planète. Alors, c'est vite vu, vous savez, si vous avez des peurs rationnelles ou irrationnelles dans tout ce qu'on est en train de vivre, et ça, il se pourrait que vous ayez des peurs. Donc, on peut prier pour ça. J'ai envie de prier pour ça, pour qu'on soit protégé au niveau de nos pensées, de prendre peut-être le casque du salut. Encore une fois, ce n'est pas une formule magique, mais par la foi, on peut saisir que Christ ne va pas nous abandonner et qu'il va nous conduire les uns les autres. J'étais sensible aussi à l'appel de prière de l'Alliance évangélique mondiale par rapport au coronavirus. Ils disent, mais prions comme chrétiens, parce que des gens sont en train de perdre des proches, il y a quand même des morts qui sont là, il y a de la tristesse, il y a des deuils à traverser, il y a aussi à prier pour la sagesse des gouvernements, des nations, des dispositions à prendre pour tout le personnel médical, pour que Dieu permette qu'on trouve un vaccin, une parade, pour que ce virus puisse être enrayé. Il y a toute la question, la dimension économique, des gens perdent leur emploi, parce qu'il y a une crise économique dans bien des endroits. Donc ça peut être très douloureux. Et puis, je pense aussi que on peut, et j'aimerais prier pour cela, c'est que on saisisse cette occasion pour être scellés lumière, parce que on a sur notre route des personnes qui sont dans le désarroi, et qui sait si Dieu pourrait pas justement nous permettre de leur apporter une parole d'espérance, une parole qui peut être peut-être décisive pour ces personnes de trouver le salut en Jésus-Christ, parce que après tout. Tout d'un coup, un virus met à mal beaucoup de choses et de nos capacités humaines qui sont tout d'un coup beaucoup plus limitées. Alors nous prions dans ce sens. Père Céleste, je te dis merci pour ces moments qu'on a pu passer ensemble ce matin. Je te remercie pour ton amour, ta fidélité, pour ta parole, pour la possibilité que nous avons ce matin aussi d'intercéder par rapport à nos propres cheminements. Seigneur, garde-nous de crainte, de peur excessive. En même temps, garde-nous d'être intrépides, de ne pas aussi avoir de la sagesse, de pouvoir nous adapter aussi aux directives de nos dirigeants, des responsables politiques, des autorités de notre pays. Seigneur, on te prie pour tout le corps médical exposé davantage à cette maladie et aussi pour les chercheurs. On te remercie pour les capacités que tu donnes à des êtres humains pour pouvoir, dans leurs entreprises, trouver des clés, des chemins, des solutions qui sont pour le bienfait de l'humanité. Et puis, on t'invoque, Seigneur Jésus, sur les enfants de Dieu du monde entier, sur toutes les nations, dans toutes les nations. Merci de nous aider à prendre conscience que toutes ces opportunités qui sont là nous interpellent au niveau de nos fragilités, mais en même temps nous obligent, nous contraignent à nous appuyer bien davantage sur toi qu'on le ferait peut-être d'habitude. Et peut-être qu'il va aussi ressortir de cet épisode, de ces épisodes douloureux, des choses incroyables, où on va apprendre que justement, ça a été une occasion pour beaucoup, des millions de personnes de se tourner vers toi. Alors nous voulons participer aussi à cette dynamique, à cette dimension. Et nous te demandons de renouveler notre intelligence pour saisir les temps et les moments au sein desquels nous sommes et qui annoncent aussi ton retour. Et avant cela, nous croyons que tu veux permettre que beaucoup encore puissent entendre parler de toi. Et nous te demandons de nous donner le courage et la simplicité de cœur aussi pour pouvoir apporter de ton amour autour de nous et que tu nous donnes des clins d'œil aussi, des signes de ta bénédiction sur ces démarches et que tu renouvelles notre équipement aussi dans ce témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Amen.